Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, mais j'espère que vous êtes en forme pour poursuivre avec moi notre petit périple dans ce vaste pays qu'est la Russie. Bon, je ne vous rappellerai pas le contexte socio-politique extrêmement difficile de la Russie de ce début du XXe siècle avec la révolution russe bolchevique suivie par la guerre 39-40, hein. Si vous avez écouté la Voix des Arts jusqu'à présent, vous vous rappellerez que nous avons traversé de rudes épreuves avec nos femmes artistes créatrices. La dernière en date, la poétesse Marina Tsvetaeva a même mis fin à ses jours, et cela dans des conditions extrêmes. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer d'autres femmes de lettres, hein, des écrivaines, poétesses. Et les deux dont je vais parler tout de suite se sont spécialisées dans la littérature pour enfants. Alors l'une d'elles se nomme Ania Barto, elle est née Gettel Lebovna Volova en 1906. Elle est née en Lituanie, qui faisait partie à cette époque de l'Empire russe. Bon, c'est une personne qui commencera à versifier jeune, déjà enfant ou jeune adolescente, même si son rêve était de devenir danseuse de ballet. Mais finalement, c'est la poésie qui l'emportera. Alors en 1925, elle a 19 ans et publie ses premiers poèmes. Alors je vais même vous donner les titres, hein, puisqu'ils m'ont été donnés dans mes recherches. L'un s'intitule « Le petit chinois Vanli » et l'autre « Mishka, l'ourson chapardeur ». C'est tout à fait mignon. Bon, apparemment, elle sera surtout appréciée et reconnue grâce à un recueil de comptines destiné aux tout jeunes enfants et aussi grâce à d'autres poèmes. Alors, il est dit de sources diverses qu'elle créera des œuvres plus engagées dans les années 40, les années de guerre avec l'Allemagne, et qu'elle aurait dédié certaines de ses œuvres à Staline, comme ce recueil intitulé « Adolescent » ou le poème intitulé « Nikita ». Alors pendant la guerre 40, elle sera évacuée, deviendra alors correspondante de guerre et publiera dans des journaux et lira ses poèmes à la radio. Et c'est à ce moment que son œuvre prendra une connotation plus sociale ou engagée en faveur de l'enfance lorsqu'elle mettra en scène des orphelins ou des enfants perdus comme dans son ouvrage intitulé « Svenigorod » qui s'inspire d'une expérience vécue dans l'orphelinat de la ville du même nom. Et elle sera d'ailleurs auteure, entre autres, d'un scénario pour un film intitulé « L'enfant trouvé » qui aborde justement l'histoire d'une petite fille perdue. Et de plus, grâce à son émission radio intitulée « Personne recherchée » et ses lectures en prose, elle aurait participé à réunir les familles désunies par la guerre et rendre des enfants à leurs parents. Alors, entre autres activités, elle traduira en 1977 en russe des poèmes pour enfants d'auteurs étrangers, dont le recueil s'intitule « Traduit de l'enfance ». Et ces poèmes, quant à eux, ils ont largement été diffusés, comme vous pouvez vous en douter, auprès de millions d'enfants russes. Alors, entre autres prix et récompenses, elle obtiendra ceux du régime en place, comme le prix Staline ou le prix Lénine, plus d'autres décorations spécifiques à la Russie, mais aussi elle obtiendra la médaille d'or internationale Léon Tolstoï pour créateur d'œuvres enfants et de jeunesse et sera nommée au prix Hans Christian Andersen en 1976. Alors il est dit que dans son travail d'écriture, elle se mettait véritablement à la portée des enfants. Elle écrivait beaucoup pour les tout-petits. Son écriture est simple, claire, rythmée, facile à retenir. Elle choisit surtout ses personnages et héros parmi les enfants dont les titres de ses poèmes portent les prénoms. Et ses enfants imaginaires partageaient ainsi le même quotidien que tous les petits Russes de l'époque. Et ceux-ci pouvaient se reconnaître en chacun d'eux. Et c'est après cet assez joli parcours, hein, comme quoi toutes les créatrices russes ne finissent pas leur vie tragiquement, qu'elle décédera en 1981 à l'âge de 75 ans. Alors, dans la lignée des poétesses écrivaines pour enfants, j'ai rencontré Yelena Blaginina, qui elle est née en 1903, sera diplômée de l'Institut supérieur de littérature et d'art de Brusov, pour commencer à être publiée en 1921, à l'âge de 18 ans, avec un premier poème qui s'intitule, d'après ce que j'ai lu, « Fille avec une image ». Elle poursuivra ensuite sa carrière en publiant sa poésie dans des recueils, et notamment ceux de l'Union des poètes de Koursk, sa ville de jeunesse, aussi dans des revues, des journaux, ce qui fait qu'elle finira par être remarquée par des critiques littéraires. En 1922, elle part de sa province pour Moscou afin d'y travailler et aussi poursuivre ses études de lettres, et elle décrochera son diplôme en 1925 à l'âge de 22 ans. Et ce sera à partir de 1930 qu'elle se lancera dans la littérature pour la jeunesse, histoires, contes divers, qu'elle publie dans des magazines. Et c'est en 1936, à l'âge de 33 ans, qu'elle publiera son premier livre pour enfants intitulé « Automne ». Et tout ce travail la rendra populaire. Alors qu'en est-il de son style, de ses thèmes de prédilection ? Bon, ce fut pour moi un peu difficile de trouver des traductions convenables. Je me suis référée aux avis trouvés sur Internet en recoupant les infos. Bon, il semblerait que bien des sujets et tout ce qui constituait le quotidien l'inspiraient. Il s'agit des petites choses de la vie de tous les jours, autour des gens, des enfants, de la nature, des animaux. Bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle s'attachait à présenter tout ce petit monde autour d'elle empreint de fraîcheur, de simplicité aimable, de naïveté. Alors elle écrira des poésies, mais ce seront aussi des contes, de fées ou des chansons, des comptines entre autres. Elle sera inspirée d'ailleurs par le folklore russe. Bon, ceci dit, elle baignera d'autant plus dans le milieu littéraire et de la poésie qu'elle sera mariée avec un poète nommé Georgi Oboldou, poète qui, paraît-il, aura été censuré par le régime pendant plusieurs années, ce qui, je suis sûre que vous n'êtes plus tellement étonné maintenant, car la répression sévit, vous le savez. Il semblerait également que son père ait été arrêté. Bon, alors, est-ce que son travail prendra une tournure plus tragique ? Bon, ce que j'ai pu trouver, c'est que durant la guerre 39-40, avec les Allemands qui envahissent les pays, son écriture intégrera davantage de thèmes militaires, où le tragique s'invite inévitablement puisqu'il s'agit de la guerre. Bon, sinon, à part son écriture, elle travaillera aussi comme éditrice, également comme traductrice, paraît-il excellente, puisqu'elle traduira de nombreux ouvrages de l'ukrainien, du biélorusse, de l'hébreu, entre autres. Alors d'après ce que j'ai lu, elle aurait aussi publié pour adultes en 1966 un recueil de poèmes intitulé, bon le titre est donné en anglais, Window to the Garden, fenêtre sur le jardin si je ne me trompe pas, et un autre en 1973 intitulé Folding. Et c'est après une longue vie de littératrice qu'elle décédera en 1989 à l'âge de 86 ans. Et je crois qu'elle a été traduite en plusieurs langues. En français, je reste dans le doute, à voir ou chercher pour qui cela intéresserait. Alors, je vais vous présenter maintenant une musicienne dont nous allons écouter une composition. Il s'agit de Sophie Carmen Eckart Gramatté, née Sophia Friedman Kotchevskaya, en 1899 à Moscou, mais qui émigrera en Europe, d'abord en France avec sa famille en 1909. Bon, à ce moment, elle a 10 ans. Elle étudiera à Paris la musique, le piano, le violon, plus la composition avec des maîtres français comme le compositeur chef d'orchestre nommé Camille Chevillard et le compositeur Vincent Dindy, l'un des créateurs de la Schola Cantorum de Paris qui, je vous le rappelle, est un établissement d'enseignement de musique et de danse qui avait remis au goût du jour la musique liturgique, c'est-à-dire la musique religieuse d'origine chrétienne, avec le chant grégorien entre autres, ou le chant polyphonique. Elle vivra ensuite en Allemagne où elle épousera un peintre allemand qui lui donnera le nom qu'elle porte en tant que musicienne puisqu'il se nomme Walter Gramatté. Bon, celui-ci ne vivra pas très vieux et Sophie, ben, reprendra sa liberté, pas pour longtemps, puisqu'elle convolera en secondes noces avec un historien journaliste d'origine autrichienne nommé lui Ferdinand Eckart. Et elle raccrochera également ce nom à son prénom et à celui de Gramaté, si bien que nous la connaissons en tant que musicienne sous le nom de Sophie Carmen Eckart-Gramaté. Alors, il est dit que le temps de son premier mariage, elle poursuivra une carrière de soliste, commencée déjà à l'âge de 11 ans, se produisant comme pianiste ou violoniste dans divers pays d'Europe, que le décès de celui-ci interrompra sa carrière d'interprète et que c'est sa carrière de compositrice qui s'affirmera alors. Alors, elle avait déjà commencé à faire entendre ses créations, hein, lors de concerts lorsqu'elle n'avait que 13 ans, à ce qu'il paraît. Alors, nous constatons bah, que Sophie était une enfant précoce, hein, et j'ai lu qu'elle était une véritable virtuose en tant qu'instrumentiste-interprète. Et en outre, elle reçut divers grands prix de composition à partir des années 40, dont le premier prix du concours international de compositrice à Mannheim, en Allemagne, en 1961. Et son second mari, étant nommé directeur à la Winnipeg Art Gallery au Canada, il s'y installe en 1953. Et elle prendra la nationalité canadienne peu de temps après. Alors, qu'a-t-elle produit tout au long de sa vie, qui s'achèvera en 1974 à l'âge de 75 ans? Eh bien, ce sont des pièces pour violon et piano, évidemment, de la musique de chambre, des symphonies, des concertos, une production variée et importante, parmi laquelle les sonates pour piano et les 12 caprices pour violon, seraient ses œuvres les plus connues. Les caprices étant un genre musical pour instruments solo où la virtuosité est mise en valeur. Mais nous allons maintenant découvrir l'une de ces pièces. Il s'agit d'une valse interprétée au piano. Alors voici encore une autre poétesse journaliste de surcroît nommée Olga Bergholtz, née en 1910 et qui suivra dans un premier temps des cours d'histoire de l'art et de littérature à l'Institut d'État des Arts de Pétrograd, le nom russifié de Saint-Pétersbourg, pour reprendre ensuite ses études afin d'obtenir à 20 ans un diplôme de philologie spécialisée littérature russe à l'université de Leningrad, qui n'est autre que la ville de Saint-Pétersbourg. car en effet, Saint-Pétersbourg changera plusieurs fois de nom, notamment pour faire table rase du passé tsariste. La ville sera rebaptisée du nom de Lénine au moment où celui-ci décédera, pour reprendre ensuite celui de Saint-Pétersbourg dans les années 90 du XXe siècle, bien sûr. Alors la philologie, pour ceux qui se demanderaient de quoi il s'agit, eh bien je vais vous lire la définition du Larousse et je lis « Ancienne science historique qui a pour objet la connaissance des civilisations passées grâce aux documents écrits qu'elles nous ont laissés ». Alors après ces quelques petites précisions utiles pour répondre à votre curiosité et étoffer ainsi votre culture générale dans le cas où vous en auriez besoin, revenons à Olga Bergholtz qui deviendra poétesse, écrivaine, notamment de littérature pour la jeunesse, ainsi que journaliste. Alors c'est à 14 ans qu'elle publiera avec l'aide de son père ses premiers poèmes et histoires dans des journaux diffusés dans des usines où les idées d'un renouveau politique et social sont mises à l'honneur. Alors il faut dire que la famille Bergholtz était communiste, partisan des bolcheviques. Il semblerait que l'idéal communiste de Olga Bergholtz, s'affichait dans sa poésie. Elle militait ainsi à sa façon pour cet idéal égalitaire où chacun peut vivre et travailler dans la paix et l'harmonie, d'après ce que j'ai compris. Elle rencontrera ensuite en grandissant un poète écrivain nommé Boris Kornilov dans une association littéraire pour la jeunesse et qui deviendra son mari et avec qui elle aura une fille en 1927 à l'âge précoce de 17 ans. Bon, ménage qui ne tiendra pas longtemps, puisqu'en 1930, le couple divorcera. Enfin, quoi qu'il en soit, Boris Kornilov, tout communiste qu'il fût, connaîtra une fin tragique, puisqu'il sera fusillé, comme tant d'autres, en 1938, à l'âge de 30 ans. Alors revenons à la destinée d'Olga Bergholtz qui peu avant la naissance de sa fille et jusqu'à son divorce poursuivra ses études à l'Institut d'Histoire de l'Art sous la houlette de professeurs émérites, passera ensuite par l'Université de Leningrad, puis pour les besoins de son cursus d'étudiante entre accouchement et divorce, traversera la Russie. Bon, doit-on dire en long, en large, en travers, vu les villes et régions traversées, pour enfin décrocher son diplôme de philologie spécialisée littérature russe et dans la foulée du divorce qu'on volait une seconde fois. Bon, ben, c'est un rythme, il faut tenir la route. Je suis déjà fatiguée, moi, rien que d'en parler. Alors, nous sommes dans les années 30, elle est journaliste pour plusieurs journaux. Surtout au Kazakhstan, où elle est correspondante du journal La Stelpe soviétique. Bon, c'est donc une vie bien remplie de journalistes et d'écrivaines, constituée de reportages, d'écritures de livres, plutôt pour enfants. Et elle deviendra par la suite rédactrice et historienne au journal d'une importante usine d'équipements électriques. Alors en parallèle, elle publiera ses livres dans une autobiographie liée à la ville de Outlitch, sous ce même nom, et également ses poésies. Bon, apparemment, elle est soutenue dans son travail de créatrice par de célèbres écrivains russes, comme Gorky ou Marchak. En tout cas, il semble que cette dizaine d'années, des années 30 à 40, fut très prolifique en créativité littéraire et lui apporte par la même occasion une certaine renommée. Alors, peut-on trouver ses recueils, ses livres en français ? Bon, j'en doute pour avoir cherché, mais il semblerait que les traductions se trouvent plutôt en anglais. Alors, je vous cite quelques ouvrages, comme L'endroit à l'écart de 1932, Nuit du Nouveau Monde de 1935, Livre des Champs 1936. Bon, ceci dit, malgré son succès, sa créativité, le drame, le tragique de la vie la guette pour lui donner enfin rendez-vous. Déjà une première fois en 1933, puisque sa seconde fille, qu'elle eut avec son second mari, décède de maladie. En 1936, c'est son autre fille, Irina, qu'elle eut avec son premier mari qui décède de maladie. En 1938, c'est son premier mari, cette fois-ci, qui sera victime du régime et passera devant le peloton d'exécution. Et quant à elle, comme quoi pour confirmer que le malheur n'arrive jamais seul, cette même année, elle sera arrêtée, subira bousculade et maltraitance lors de son interrogatoire, si bien qu'elle mettra prématurément au monde son troisième enfant, qui décédera à la naissance. Et ensuite, jetée en prison pour plusieurs mois, elle en sortira enfin, innocentée, en juillet 1939. Et avant l'incarcération, et en 1937, elle avait déjà perdu son adhésion au Parti communiste et avait aussi été expulsée de l'Union des écrivains soviétiques. Or, pendant toutes ces périodes douloureuses comprenant les mois d'incarcération, elle aura couché sa douleur et ses désillusions sur papier sous forme de poèmes. Et les yeux qu'elle ouvre sur les dérives du parti et du pouvoir en place sont ses motifs d'écriture. Et elle donne à savoir qu'elle réprouve la censure, la répression artistique. Bon, ensuite, à partir des années 40, ce sont les années de guerre avec les Allemands qui envahissent la Russie. Elle participera à la défense de son pays à sa manière en tant que journaliste, poétesse, et montrera ainsi son implication auprès de son peuple en s'exprimant à Radio Leningrad, où elle informera, réconfortera, soutiendra, encouragera le peuple russe en souffrance, qui se reconnaîtra dans la plupart de ses poésies, car elle utilisera sa propre souffrance, celle née de ses traumatismes passés avec les décès et ses désillusions politiques, et celle du moment présent occasionné par l'invasion allemande. Et dans sa démarche, elle sera, paraît-il, soutenue par cette autre poétesse dont je vous ai déjà relaté l'existence, puisqu'il s'agit d'Anna Akhmatova, qui était une amie. Alors, entre-temps, son second mari décède. Il semblerait que ce soit de faim, de malnutrition. Bon, elle aussi souffre de faim et son corps est en passe de la lâcher. C'est miracle si elle tient le coup. Bon, d'autre part, les liens familiaux et amicaux, par force, sont distendus. Mais elle s'accroche quand même à ses activités littéraires qui resteront témoignages de ce qu'elle vit, voit et ressent. Alors, l'un de ses écrits, daté de 1945 et intitulé « Ton chemin », aurait été traduit en français par François Kerel dans son ouvrage lui-même intitulé « Ici à Leningrad » et qui donne un aperçu de la vie du peuple dans cette ville à ces époques difficiles. Alors, elle se mariera une troisième fois avec un critique littéraire, collègue de radio nommé Georgi Makogonenko, et tous deux produiront en 1945 un film radiophonique intitulé « 900 jours ». Alors, les 900 jours correspondant à l'occupation allemande. Alors, il s'agit apparemment de témoignages avec des extraits musicaux de Shostakovich. Bon, il faut dire aussi qu'elle aura eu à cœur de réhabiliter la mémoire de son premier mari, le poète Boris Kornilov, ce qui se fera en 1957. En 1959, elle écrit « Daystar », un roman autobiographique sur ses années difficiles qui sera repris par un réalisateur nommé Igor Talankin et adapté au cinéma en 1968. Et pour son implication et son passage remarqué et remarquable à ce qu'il paraît à la radio, elle sera récompensée en recevant la médaille d'honneur de la défense de Leningrad en 1943 et en deviendra citoyenne d'honneur de la ville de Saint-Pétersbourg en 1994. Alors, il est dit d'elle que c'est une survivante, mais que malgré tous ces événements, ces constats pathétiques sur les répressions, la politique, elle a conservé son intégrité et son idéal communiste d'égalité. Et après cette existence, quand même difficile, elle décédera en 1975 à Leningrad, à l'âge de 65 ans. Et sur l'un des murs du cimetière commémoratif de Piskarovskoï, construit pour accueillir les victimes du siège de Leningrad, on peut lire les premières phrases de l'une de ses poésies, Personne n'est oublié, rien n'est oublié. Allusion en quelque sorte à ce devoir de mémoire, hein, l'hommage rendu à ceux qui ont souffert pour une cause qui leur paraissait juste, pour défendre un pays qu'ils aimaient, et aussi, et je me plais à le rappeler, une leçon à retenir pour éviter que ces drames de l'histoire ne se répètent plus dans le futur. Et je pense aussi à ce qui perdure encore dans le présent, hélas, en drames et guerres de tout genre au XXIe siècle. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me plais à rendre hommage à cette femme, à ces femmes qui tournaient du côté le plus lumineusement vivant de l'existence, ont lutté de toute leur âme contre l'absurde, contre l'horreur et contre la mort avec des mots. Et ce que je dis vaut également pour leurs camarades masculins, bien évidemment. Et c'est sur ces paroles d'hommage, de constat et d'espoir que l'émission La Voix des Arts prend fin. Mais ce n'est qu'un au revoir, hein. Je ne vais pas dire un au revoir mes frères, mais bon, car déjà au loin, dans les plaines immenses de Russie, nous attendent encore des femmes artistes créatrices qui encore ont bien des choses à nous dire. Et moi je vous dis à bientôt et merci de votre écoute sur La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.